Ernest d'Hervilly, le mari de ma femme. Que les parents sont imprudents! Cette exclamation soudaine, mais très connue, a une cause, c'est certain. Pourtant qu'on ne s'attende pas à me voir écrire après l'avoir poussé. Encore un accident par les allumettes chimiques. Non, mesdames, non, non. Je laisse les roses aux rosiers, les enfants à leur mère, et les phrases clichés aux faits divers. Non, il s'agit ici tout bonnement de l'imprudence de l'un des miens, mon cousin Henri, qui a laissé traîner entre mes mains le tome premier de son autobiographie. Mon cousin Henri, âge 30 ans, profession riche propriétaire, écrit ses mémoires depuis le temps où ses pions lui collaient le verbe « Je m'occupe de poésie en temps inopportun, à conjuguer 12 fois pendant les récréations. » Pas de chance, mon cousin Henri. Mais passons. Mon cousin Henri, le riche propriétaire, écrit donc dans ses mémoires. Il y a quelques jours après le déjeuner, il m'a confié ce grand secret. Ma cousine, pendant que mes oreilles béantes absorbaient la confession de ce brave Henri, stationnait sans doute devant quelques magasins. Nous étions seuls dans ce délicieux réduit que mon cousin appelle son cabinet de travail, parce qu'il y travaille jamais. Le tome premier, oh, il n'y en a pas de second, de l'autobiographie en question me plut infiniment. C'était un peu touffu comme un bois, mais il y avait des coins charmants. Nous y arrêtâmes longtemps. Bref, à force de ruses et de mauvais prétextes, j'obtins la permission d'emporter le fameux volume chez moi, afin, disais-je machiavéliquement, d'y retirer avec plus d'attention divers passages philosophiques. Mais j'avais mon plan, et je l'exécute aujourd'hui. Je copie textuellement à votre intention, mesdames, un passage des mémoires de mon cousin Henri. Il est intitulé « Le mari de ma femme ». Si je ne craignais d'offenser la modestie de mon cher Henri, que mon indiscrétion coupable va faire crier comme un paon du reste, j'ajouterais bien que le récit que vous allez lire m'a séduit tout particulièrement par sa naïveté originale, par sa pureté sans tache, mais... Bon, j'ai trop peur de faire rougir l'auteur. Et puis, présenter quelqu'un en le couronnant d'avance des fleurs de l'hyperbole, c'est préparer souvent à ce quelqu'un un four insondable. Je me tais donc. Place au théâtre. Chapitre 25, le mari de ma femme. La première fois que j'allais en entendis parler à voix basse entre dames du mari de ma femme, j'étais fort jeune et garçon. Ma femme aussi. Et la scène se passait à Choisy-le-Roi, un jeudi de décembre, dans le parloir de l'institution de Madame C., avec un grand jardin. Ma femme était alors l'une des young ladies auxquelles la maternelle Madame C. prodiguait des leçons de toutes sortes. Français, botanique, danse, piano, anglais, dessin de crayon, humilité chrétienne, gymnase, etc. Or, le jour où, en compagnie de la mère de Claire, Claire est la femme de mon cousin Henri, l'homme du copiste, et de plusieurs autres dames respectables, mais qui avaient bavardé comme des pies dans la voiture tout le long de la route, je vins à Choisy-le-Roi, ma future femme était ornée de l'os à moelle. Terrible l'os à moelle. Je vais vous expliquer ce qu'il faut entendre par l'os à moelle. Dans la bowling school de Madame C., avec un grand jardin, quand une de ces demoiselles avait rongé ses ongles, avec l'avidité d'un naufragé de la méduse, réduit à cette appétissante nourriture, on lui offrait comme punition au choix ou le bonnet de nuit ou l'os à moelle. Claire, humiliée au dernier point par le bonnet et ne comptant recevoir aucune visite, avait sollicité l'os à moelle. C'était un os énorme, d'un blanc d'ivoire, épave inerte d'un pot-au-feu digéré depuis des années, et qu'on suspendait au cou des coupables, au moyen d'une ficelle déplorable. Cet os à moelle ainsi porté faisait naître 100 000 plaisanteries aiguës qui entraient dans le cœur de celles qui en étaient décorées, comme de cruelles épingles. Terrible, l'os à moelle! Moins affreux pourtant que le bonnet de nuit, puisque Claire et beaucoup de ses compagnes l'acceptaient de préférence. Mais Claire avait compté sans son hôte. À midi précis, pendant la récréation, alors que ma femme rêveuse, accablée sous le poids de son os à moelle, se promenait loin de ses amis, la bonne était venue l'appeler. « Mademoiselle Claire, on vous demande au parloir. » Sombre moment. Claire, les larmes aux yeux, avait prié la sous-maîtresse, mère Manguet, de lever sa punition. Et la vieille dame avait refusé. Alors ma pauvre petite femme, le cœur bien gros, se décida à suivre la bonne. Celle-ci, avec méchanceté, lui apprit en route que plusieurs personnes, entre autres un élève de Sainte-Barbe, l'attendaient au parloir. « Oh, monsieur Henri !» s'écria Claire en mettant la main sur son os à moelle. « Quel malheur, oh, j'en mourrai !» Enfin, l'infortuné enfant parut devant notre bienveillante assemblée. Quelques sacs blancs, ficelés de rouge, reposaient çà et là sur les coussins des divans près de nous. Claire sourit. « Encore les ongles, n'est-ce pas ?» demanda la mère de ma femme à sa fille rougissante. « Voyons les mains !» Ma chère Claire, sanglotant, montra, après bien des hésitations, les extrémités en question, et que je devais plus tard baiser si tendrement. Pour le moment, elle ne se manifestait au regard que sous les apparences de deux petites pattes rouges aux ongles taillés comme par Hugolin. Affreux spectacle! L'os à moelle, insensible, se soulevait et s'abaissait en même temps que la poitrine ingénue de la chère enfant, et des larmes colorées sillonnaient le visage si mignon et si gentil de la petite Claire. Elle n'osait pas me regarder. J'étais fort attendri. Nous étions jurés un amour éternel aux dernières vacances. Et dame, sa douleur était ma douleur. Aussi, l'embrassant à mon tour, je lui dis tout bas, pour la consoler, en lui montrant mes mains. « Mais moi aussi, je ronge mes ongles. » Cette communauté de goût la fit sourire. J'avais gagné son cœur pour jamais. Et je le sais bien maintenant, bien que nous ayons perdu totalement l'habitude de nous nourrir de notre propre substance dermique. Elle m'adora à dater de ce jour. Elle me l'a dit. Elle me l'a dit le jour où je la suppliais de m'accorder sa main effilée et blanche. Car elle répondit en souriant à mes prières amoureuses. « Voici la main et les ongles, mon ami. J'espère qu'il y en aura toujours pour deux, si vous rongez parfois les vôtres. » Cher souvenir, mais revenons à l'os à moelle. On fit prier Madame C. de descendre au parloir pour donner quelques explications. Cette personne solennelle fit son entrée bientôt et ces dames se mirent à bavarder de plus belle. C'est alors que j'entendis parler à mi-voix d'un certain mari glissé sans bouchon dans le lit d'une voisine. Claire, un vrai diable, avait commis cette farce insensée. Et c'était moins pour le fait des ongles arrêtés dans leur croissance par les dents juvéniles que pour le cas pendable du mari répandu dans la couche d'une compagne que l'os à moelle avait été si rigoureusement infligé à Claire. Le mari de ma femme. Oh, ce mot m'intriguait. D'autant plus que Claire riait en dessous en écoutant les reproches de sa famille. On parla également de moines ce jour-là. Il me parut même qu'on établissait une certaine synonymie entre les mots de mari et de moine. Oh, cela me semblait incompréhensible. Nous quittâmes enfin Claire, munie de sacs blancs, ficelés de rouge, et presque consolée. 5 ans plus tard, toujours en hiver, en décembre encore, si je ne me trompe, à l'issue d'un bal costumé donné par ma future belle-mère pour produire la ravissante Claire, et attirer autour d'elle des papillons pourvus de rentes solides, j'errais de chambre en chambre, à la recherche de je ne sais plus quoi, de mon cœur peut-être, enlevé pendant la soirée. Mon cœur ne se retrouvait pas. Oh, au fait, il s'agissait peut-être de mon chapeau. Or, l'hôtel de ma belle-mère était sans dessus-dessous. Les coiffeurs, les costumiers, etc. avaient mis la maison au pillage. Le diable aurait marché sur sa queue ce matin-là, dans les antichambres bouleversées. Tout le monde, où il était 4 heures, s'en allait. Et seul dans tous les coins, je fouillais avec désespoir. Les domestiques éreintés soupaient à l'office. Enfin, je mis la main sur la femme de chambre de Claire, cette pigriège de lourd. Elle tenait d'une main un cylindre d'étain et de l'autre une sorte de gaine en fourrure. « Mon chapeau, lourd, au nom des saints anges, dont vous ne faites pas partie du reste. Ah, monsieur Henri, dame, je ne sais pas, moi. Et puis, j'ai pas le temps, mademoiselle va se coucher, il faut que je lui porte son mari. Je suis déjà en retard. » Et elle se sauve en riant. Son mari? Je restais muet et sombre dans le corridor que j'espérais en vain depuis 1 heure. Son mari? Répétai-je. Oh, quel drôle de nom! Que diable cela peut-il être? Un mari de demoiselle? Et de demoiselle que j'aime, en outre! À quoi bon se creuser la cervelle à 4h30 du matin? Je me résignai à partir sans chapeau, avec un foulard sur la tête en façon de turban. Il était temps, mon cocher de louage se mourait de froid sur son siège. Le pauvre homme toucha avec ivresse, et ses coursiers, qui semblaient se conformer à ses joyeuses pensées, me déposèrent bientôt à ma porte. La 3e fois que le mari de ma femme fit son apparition dans mon existence, ce fut par une chère nuit de janvier, 12 mois après le fameux bal pendant lequel je perdus successivement mon cœur et mon chapeau. Mon cœur, je l'ai retrouvé, et pour ne plus l'égarer, je l'ai donné à ma femme. Elle le garde avec soin. Quant à mon couvre-chef, mais où sont les gibeuses d'antan? Ce fut donc, je le répète avec émotion, par une nuit exquise de janvier, au clair charmant de la lune, de miel, qu'il fut question pour la 3e et dernière fois du mari de la femme, dont j'étais le mari pour toujours. La bonne petite, aussi bonne que belle, et avec de jolis ongles d'un rose tendre, soignée avec amour, dame l'eau sa moelle, se tenait droite comme une sainte à côté de moi, dans le lit nuptial, large, et qu'eût été solennel en diable si... Mais il n'était pas solennel le nôtre du tout. On y riait de bon cœur en parlant du passé, du doux passé, en se rappelant les diverses bêtises dites ou faites avant le mariage, et les fâcheries sans motif et les réconciliations arrosées de larmes abondantes. « Ce que c'est qu'une habitude, petit mari ! » s'écria Claire tout à coup. « Eh bien, enfant, que voulez-vous dire ? Ris, si tu veux, mais mon mari me manque. »«
Ton mari ? » ?»«
Oui, mon mari, mon fidèle mari, le mari que j'avais à la pension et qui m'a suivi partout. Ah oui, à propos, qu'est-ce donc que ce mari énigmatique, madame ? Allons, ne froncez pas le sourcil, monsieur et très cher maître. C'est une boule d'eau chaude pour les pieds. Quel nom absurde ! Oui, mais la chaude ne l'est pas, surtout quand on est frileuse comme moi. Et cher Henri, autrefois... Le reste fut dit tout bas. Je ne le crierai donc pas sur les toits. Mais je répondis en souriant. Pas de bigamie. Il faut choisir à l'instant même entre vos deux maris. C'est que, dit Claire, l'habitude, un vieux serviteur. Petite gamine, répliquai-je, acceptez plutôt les services dévoués de votre jeune serviteur, d'un mari qui... Qui ? Fit-elle malicieusement. Mais qui ne sera pas froid le matin comme l'autre ?